À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de ce vendredi 6 février 2015. À la une ce soir.
Nigeria lutte contre Boko Haram. 5 pays se joignent pour former une force régionale de 7500 soldats pour faire face au groupe terroriste.
Un des leaders du groupe islamiste Al-Shabaab tué dans une frappe américaine selon le gouvernement somalien.
États-Unis, Barack Obama prône une stratégie intelligente en matière de sécurité et de la patience à la recherche de solutions aux problèmes internationaux.
Il y a beaucoup de pression sur Barack Obama parce que l'année prochaine, il y aura les présidentielles.
On connaît l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera Ghana-Côte d'Ivoire, comme en 1992 au Sénégal. Et bien sûr, on aura la page économie, mais d'abord, le journal.
Offensive de Boko Haram au Niger, le groupe islamiste nigérian a attaqué ce vendredi la ville nigérienne de Bosso, à la frontière avec le Nigeria. Un bilan provisoire que rapporte Reuters fait état d'au moins 5 soldats nigériens blessés. C'est la première incursion armée au Niger de la nébuleuse terroriste nigériane. Chaka Aristide.
Des témoins à Bosso ont confié à l'AFP qu'ils pouvaient entendre les bruits d'armes lourdes et d'armes légères aux quatre coins de la ville qui ont fait trembler leur maison ce vendredi matin. Yakuba Soumana Gao, gouverneur de Difa, la capitale régionale, a déclaré que tout était rentré dans l'ordre dans l'après-midi. Un habitant affirme avoir entendu un avion survoler Bosso et aperçu de la fumée s'échapper du côté de la mairie et de la préfecture, où il y a eu des tirs intenses. L'armée tchadienne est positionnée dans Bosso depuis lundi, mais d'après le gouverneur, seules les troupes nigériennes se sont battues contre les combattants de Boko Haram. Il s'agit du premier assaut du groupe nigérian contre le Niger, après des attaques menées dans un autre pays voisin, le Cameroun. Niamey compte envoyer des troupes au Nigeria pour combattre les islamistes.
En Somalie, le gouvernement a annoncé la mort de Youssouf Diick, un des leaders du groupe islamiste Al-Shabaab, à la suite d'une frappe américaine samedi dernier au sud de Mogadiscio. Michel Joseph.
Le Pentagone américain avait confirmé mardi l'attaque visant Youssouf Diick à l'aide d'un drone, mais sans certitude que ce leader d'Al-Shabaab avait été blessé ou non. Présenté comme le chef des opérations extérieures des insurgés Shabaab, Youssouf Diick aurait coordonné des attaques hors de Somalie, notamment au Kenya, où les Shabaab avaient mené en septembre 2013 une spectaculaire attaque contre le centre commercial Westgate de Nairobi, attaque qui avait fait près de 70 morts. Les insurgés Shabaab, affiliés à Al-Qaïda, ont perdu du terrain ces dernières années en Somalie, mais le groupe, qui a juré la perte des autorités de Mogadiscio, continue de mener de spectaculaires attaques de type guérilla, notamment dans la capitale ou au Kenya voisin. Washington soutient les fragiles autorités de Mogadiscio avec des drones ou des opérations de forces spéciales. Une centaine de conseillers militaires américains se trouvent actuellement en Somalie.
République démocratique du Congo, la traque des forces démocratiques alliées, ADF, se poursuit. Ce vendredi, l'armée continuait d'attaquer ces rebelles musulmans ougandais, accusés de massacrer des centaines de personnes dans la province du Nord Kivu. Eddie Isango.
La dernière attaque attribuée aux ADF a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Le gouverneur Julien Paluku a confirmé à l'AFP que les FRDC étaient aujourd'hui aux trousses de ces miliciens qui ont tué des centaines de personnes depuis le mois d'octobre, dont plus d'une vingtaine cette semaine dans la zone de Beni. Diverses sources affirment que plusieurs victimes ont été tuées à l'arme blanche. Selon M. Paluku, 17 personnes prises en otage par les ADF ont été libérées par l'armée nationale congolaise. À la mi-décembre, les FRDC et la mission onusienne en RDC, la MONUSCO, ont annoncé une opération conjointe contre les rebelles ougandais. Cela n'a pas empêché les massacres de 30 personnes deux semaines plus tard dans une région proche de Beni. Durant les trois derniers mois, plus de 260 civils sont morts dans les violences perpétrées par les forces rebelles dans cette partie de la province du Nord Kivu.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a condamné la détention du directeur de la radio locale RPA au Burundi. La justice burundaise a ordonné mercredi le maintien en détention préventive de Bob Rugurika, détenu depuis 17 jours pour complicité d'assassinat de 3 religieuses italiennes, indique l'AFP citant l'information d'un de ses avocats. La Cour pénale internationale a annoncé séparer les procédures contre Dominique Ongwen de la LRA et celles concernant ses co-accusés Joseph Kony, Vincent Oti et Okot Odhiambo. Les autres suspects n'ayant pas encore été appréhendés, la Chambre a jugé nécessaire de ne pas retarder les procédures à l'encontre du prévenu, a indiqué la CPI dans un communiqué.
L'Organisation mondiale de la santé affirme que de nombreux survivants d'Ebola se retrouvent avec des problèmes physiques et psychologiques et auront besoin d'aide pour se remettre des séquelles du virus. Suite à une rencontre au siège de l'OMS, des experts ont convenu que davantage d'attention devait être accordée, notamment aux soins pour les femmes enceintes et les enfants, qui sont les plus vulnérables à la maladie. Selon Margaret Harris, conseillère technique à l'OMS, la norme actuelle de soins pour les enfants ne fonctionne pas et doit être changée.
97% des enfants ayant perdu leurs parents ou gardiens dans l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest ont retrouvé une famille, selon l'UNICEF. Ils sont quelque 17 000 enfants à avoir été accueillis majoritairement par la famille élargie, indique l'AFP.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Conflit ukrainien après Kiev, le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel sont arrivés ce vendredi à Moscou dans l'espoir d'obtenir un cessez-le-feu, préalable espéré à un accord global sur la crise en Ukraine. Camille Grosdidier nous en dit plus.
Angela Merkel et François Hollande devaient rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Moscou pour le convaincre de faciliter un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine où les troupes gouvernementales affrontent toujours les séparatistes ukrainiens soutenus par la Russie. Ce déplacement est intervenu un jour après que les deux dirigeants eurent conféré à Kiev avec le président ukrainien Petro Poroshenko. Les deux leaders cherchent à défendre la paix, a dit Mme Merkel, et font tout leur possible pour mettre fin au bain de sang dans l'est de l'Ukraine. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, a-t-elle dit. Pour François Hollande, l'offre faite à Poutine permettrait de parvenir à une nouvelle solution au conflit fondée sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. À Bruxelles aujourd'hui, le vice-président américain Joe Biden a accusé la Russie de continuer à intensifier le conflit en Ukraine en envoyant des mercenaires et des chars sur le terrain. Moscou, a-t-il ajouté, ne peut ni ne doit redessiner la carte de l'Europe.
Le groupe État islamique a annoncé la mort d'un travailleur humanitaire américain retenu en otage par les djihadistes. Il aurait été tué lors d'une frappe aérienne menée par la Jordanie. Aucun commentaire officiel des autorités américaines jusqu'à présent. La Jordanie a décidé d'intensifier ses attaques aériennes contre l'État islamique après l'exécution d'un pilote jordanien capturé en Syrie à la fin de l'année dernière. Maz al-Kassabeh a été enfermé dans une cage et brûlé vif.
Au Yémen, la puissante milice chiite a finalisé aujourd'hui la prise totale du pouvoir avec l'annonce de la dissolution du Parlement et la nomination d'un conseil présidentiel pour diriger le pays. Dans une déclaration télévisée, les rebelles houthis ont également fait savoir qu'un conseil national de 551 membres prendra la place de l'Assemblée. Le mois dernier, les rebelles ont contraint le président Abdirabou Mansour Hadi et son cabinet ministériel à démissionner après une opération militaire à Sanaa. En dépit de la crise politique, les États-Unis ont promis de continuer leurs activités antiterroristes au Yémen.
L'Amérique doit diriger à partir d'une position de force, a déclaré le président Barack Obama dans un document publié aujourd'hui par son administration. Le président américain plaide pour que les États-Unis fassent preuve de patience stratégique dans leur approche des questions internationales. Sa position est exposée dans un document de 35 pages sur la sécurité nationale où il insiste sur la nécessité d'avoir une stratégie intelligente qui n'est pas basée uniquement sur la force militaire.
Au Brésil, la police a abattu 13 personnes soupçonnées de préparer une attaque contre une banque à Salvador de Bahia dans le nord-est du pays. C'est ce que rapporte l'AFP qui s'appuie sur les sources militaires. Selon les autorités, l'attaque devait être menée par un groupe de 30 personnes. Quand la police est intervenue, elle a été accueillie par des tirs d'armes à feu. Lors de la riposte, 13 membres du groupe ont trouvé la mort.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la Canne avec Nicolas Pinault.
Bienvenue à la Canne, bienvenue à Mbolo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. Qualification méritée pour le Ghana et honte sur les supporters équato-guinéens. Le Ghana rejoint donc la Côte d'Ivoire pour une finale 100% ouest-africaine dimanche à Bata. Les Black Stars n'ont pas tremblé et su maîtriser leurs nerfs durant une partie sous haute tension. Des projectiles ont volé des tribunes de la part des supporters équato-guinéens mécontents. Après le troisième but ghanéen, les projectiles se sont à nouveau abattus sur la pelouse et des incidents ont éclaté avec les supporters ghanéens qui ont fini sur la pelouse, tout simplement invraisemblable. Le match a pu reprendre après 30 minutes d'interruption, mais les choses en restent là. Victoire 3-0 du Ghana. Retour sur cette qualification avec Jules Valentin Gouy.
Après sa très controversée victoire face à la Tunisie en quart de finale de la CAN, les Allants nationaux de Guinée équatoriale étaient particulièrement attendus pour sa prochaine sortie en demi-finale contre le Ghana. Non pas la prestation de l'équipe, qui contre toute attente, s'est incontestablement mise au niveau de la compétition, mais la polémique tournait surtout autour de l'arbitrage jugé partial, au point d'évoquer la thèse du complot ou encore de la pression attendue du public. Sur le terrain, la Guinée a fait illusion une demi-heure durant, pour ensuite céder brutalement en fin de première mi-temps sur un pénalty consécutif à une sortie mal négociée du courageux portier Philippe Ovono et une contre-attaque assassine conclue par le remiant Moubarak Wakaso. La messe était donc dite, le troisième but d'Ayou au milieu de la seconde mi-temps sera anecdotique. Si l'arbitrage a été parfait, c'est dans les tribunes que l'inacceptable est arrivé cette fois-ci. Avec l'envahissement dangereux de la piste et la réaction d'un public déçu à 10 minutes de la fin de la rencontre. Cette scène d'un autre âge rétrograde considérablement la note de la Guinée, jusque-là encensée pour la réussite de l'organisation. À elle de redresser la barre dans les matchs suivants afin de regagner la reconnaissance de tout un continent qui lui accorde le mérite d'avoir sauvé son honneur menacé. À bientôt.
Et toujours concernant cette demi-finale hier à Malabo, décision surprenante de la Confédération africaine de football qui fait beaucoup réagir. La CAF n'inflige en effet qu'une amende de 100 000 dollars à la Guinée équatoriale pour les incidents. Aucun match à huis clos. Le match pour la troisième place entre la Guinée équatoriale et la RDC se disputera donc, comme prévu, avec des spectateurs samedi à Malabo. Et ce malgré ces violences qui ont fait au moins 36 blessés. Aucun match à suivre ce vendredi, mais samedi donc la petite finale entre les demi-finalistes malheureux équato-guinéens face aux Congolais. Comment l'équipe des Léopards se remobilise avant ce match? La réponse sur place de Thierry Kambundi.
Déçus par leur élimination en demi-finale, les Léopards de la République démocratique du Congo courent désormais derrière la médaille de bronze. Mais il va falloir que Jean-Florent Ibenge, leur sélectionneur, trouve des mots justes pour remobiliser ses troupes avant la petite finale de ce samedi.
Déjà, ce sont des compétiteurs, donc chaque fois qu'on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Déjà là, on va les mobiliser, on est abattu après une défaite. Et c'est ce qui m'intéresse, ce qui me fait plaisir. Parce que être déçu après avoir été battu contre la Côte d'Ivoire, ça montre quand même que cette équipe a de la volonté, elle n'a pas froid aux yeux.
Avant de quitter Bata pour Malabo ce jeudi 5 février, l'attaquant congolais Cédric Mabouati nous a rappelé l'importance de ce match qui devrait, selon lui, sanctionner une CAN réussie.
Je sais que tout le monde, toute l'équipe, on est bâti, mais c'est le foot. Hein. Maintenant, on doit penser au match de samedi. C'est un match très important pour nous aussi, pour arriver même à la troisième position, à prendre la médaille. On va essayer de faire ça bien. Moralement, on est touché, mais tous les mois, c'est très important de jouer. C'est un match de la CAN, on doit aller gagner.
Les Léopards seront tout de même privés de Dieu merci Mbokani, leur meilleur buteur de cette CAN avec 3 réalisations, blessé en demi-finale contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Bata, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci, à suivre donc dimanche la finale de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations, Ghana contre la Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève ce journal de la CAN. Merci à tous et rendez-vous sur voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec Jacques Aristide. Bonsoir.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Une banque de l'exportation pour les grands contrats en Afrique.
Une initiative française annoncée ce vendredi par le président François Hollande lors d'un forum franco-africain à Paris. La mise sur pied de cette banque de l'exportation est prévue d'ici au mois prochain. Objectif, aider à sceller les grands contrats internationaux, notamment en Afrique, rapporte l'AFP.
Ouf de soulagement pour Sénégal Airlines.
Au bord de la banqueroute, la compagnie aérienne va être sauvée par un transporteur aérien des Émirats Arabes Unis. D'après plusieurs médias sénégalais, des pourparlers sont en cours, même si un mémorandum d'entente a déjà été paraffé avec Dakar dans le cadre d'un projet de recapitalisation partielle de Sénégal Airlines, c'est-à-dire à hauteur d'une minorité de 33%, l'État sénégalais conservant la majorité du capital.
Fermeture du principal service de transfert d'argent entre les États-Unis et la Somalie.
Il s'agit de la Merchants Bank of California, arrêt décidé dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ce qui va affecter 80% des fonds envoyés du territoire américain vers la Somalie. Environ 200 millions de dollars d'après une ONG d'aide humanitaire basée à Nairobi, Adeso, qui craint des effets dévastateurs car, dit-elle, ces transferts sont la colonne vertébrale de l'économie somalienne.
Et un mot sur l'emploi américain qui a commencé l'année en trombe.
Cela malgré une légère remontée du taux de chômage pour s'établir à 5,7% selon le rapport sur l'emploi publié ce vendredi par le département du travail.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jacques Aristide. Chers Romain Dorcil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Le Nigeria et ses quatre voisins ont promis chacun un bataillon pour former la force régionale de 7500 soldats pour faire face au groupe terroriste Boko Haram. Mais l'Union africaine et les Nations unies n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la question du financement de cette force, ce qui pourrait retarder le déploiement des troupes. Jean-Roger Billon.
Pour Edgar Alain Mebengo, le ministre camerounais de la Défense, Boko Haram pose un défi aux dirigeants africains en tuant au moins une centaine de personnes dans le nord du Cameroun au moment même où se tenait la réunion de l'Union africaine. Selon Alain Mebengo, 800 membres du groupe terroriste ont brûlé des églises, des mosquées, des villages et abattu des jeunes qui leur ont opposé la résistance.
Nous avons 81 personnes, c'est-à-dire au titre des populations civiles, tuées. Nous comptons également 13 militaires tchadiens également tués et 6 militaires camerounais. Je voudrais préciser que ce bilan est susceptible d'évoluer parce que en dehors des tués, il y a beaucoup de blessés, dont certains très grièvement. Donc je voudrais préciser que c'est un bilan qui peut évoluer.
Le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin ont accepté de contribuer chacun à hauteur d'un bataillon pour mettre sur pied en urgence la force de 7500 hommes. Danjuma Cheni, le représentant du Nigeria, assure que son pays appuie l'initiative régionale.
The stakes are of course extremely high. Very.
Les enjeux sont grands, très très élevés. La question des réfugiés, l'impact sur notre économie, la menace à la paix et à la sécurité internationale. Le Nigeria est l'un des principaux pays touchés par l'insurrection et donc nous nous attendons au soutien de nos voisins et de la communauté internationale. La CEDEAO dit avoir reçu mandat de former la force multinationale destinée à combattre Boko Haram. Le colonel Pale Olo Alain est le directeur des opérations militaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
À menace globale, riposte globale. Nous puissions apporter des éléments assez substantiels pour produire un bon concept d'opération, pour produire un bon concept logistique et pour produire, n'est-ce pas, des règles d'engagement afin de permettre à la force multinationale de mener à bien sa mission afin que, comme on l'a dit, Boko Haram n'étant pas une fatalité, que l'on puisse nous défaire complètement de cette menace.
La décision de créer une telle force a été approuvée par l'Union africaine. Le financement reste cependant le ventre mou de l'opération. La France, à travers son ambassadeur au Cameroun, Christine Robichon, a promis de continuer à aider les pays menacés. Mais selon elle, la question sera portée devant le Conseil de sécurité et traitera également de l'aspect financier. La représentante de l'ONU lors de la réunion de l'Union africaine, Jacqueline Sek Diouf, a fait savoir que l'Union africaine a sollicité un financement et l'ONU a seulement promis la logistique.
Notre défi, c'est d'apporter un soutien technique. Naturellement, l'assistance que nous pourrons donner sera balisée par les décisions que prendront le Conseil de sécurité et le secrétaire général des Nations Unies. En ce qui nous concerne, nous sommes là pour mieux comprendre ce qui est décidé, ce qui va être fait, pour pouvoir savoir dans quelle mesure nous pourrons nous inscrire dans cette approche.
Il est essentiel que le plan approuvé à Yaoundé obtienne la bénédiction du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de faciliter l'implication militaire des autres pays africains dans la lutte contre Boko Haram.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
De nombreuses personnalités se mobilisent en ce 6 février 2015, journée mondiale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines. Les MGF sont reconnus au niveau international comme une violation flagrante des droits humains. Selon l'ONU, plus de 140 millions de femmes et de filles ont subi des MGF et si la tendance perdure, environ 86 millions de filles y seront soumises d'ici 2030. Nathalie Barge a joint à Niamey au Niger Kadi Souné, responsable de l'Association mondiale des femmes communicatrices.
La journée mondiale sur les mutilations génitales féminines, et je pense que c'est une véritable opportunité pour lancer un cri d'alarme afin de réclamer donc la cessation définitive de cette violence qui est source de souffrance aujourd'hui pour beaucoup de femmes, que ce soit dans mon pays ou à travers le monde. Et donc, c'est l'occasion de lancer un appel surtout à l'endroit de ceux qui peuvent décider, et même des pratiquants, parce qu'on a besoin d'avoir des lois qui sont appliquées effectivement et qui permettent donc d'abolir définitivement ces violences qui sont faites encore en ce moment à l'encontre de certaines femmes, notamment au Niger. C'est vraiment offrir cette occasion aux femmes de s'exprimer et de demander que les décisions soient appliquées, ceux qui sont coupables de ces crimes, parce que moi j'appelle cela comme étant des crimes contre le corps de ces femmes. Ces personnes doivent être châtiées, les lois doivent être appliquées. Et je pense que c'est seulement à ce prix qu'il est possible d'avoir une victoire sur ces violences.
Alors à ce propos, l'on observe dans certaines régions, surtout en Afrique de l'Ouest, en région rurale, une recrudescence de l'excision. Malgré toute la sensibilisation qui est effectuée autour de ce problème, comment vous expliquez cela?
Évidemment, il faut peut-être expliquer cela par le fait que les personnes qui sont concernées par les sensibilisations ne sont pas suffisamment atteintes par le message. Alors, les moyens utilisés pour atteindre ces personnes ne sont pas souvent adéquats. Et moi, je pense qu'il faut trouver une ouverture dans la transmission des messages et que les messages soient beaucoup plus proches, surtout des populations, surtout en zone rurale où les gens ont très peu accès à certains moyens de communication. Aujourd'hui, on peut, je pense que c'est possible d'atteindre les zones où il y a beaucoup de réticence, où les personnes vivent encore dans l'analphabétisme, où les personnes sont encore repliées sur des valeurs qui ne permettent pas à la société d'évoluer.
Voilà, c'était Kadi Souné, responsable de l'Association mondiale des femmes communicatrices.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le président américain plaide pour que les États-Unis fassent preuve de patience stratégique dans leur approche des questions internationales. Sa position est exposée dans un document de 35 pages sur la sécurité nationale, où il insiste sur la nécessité d'avoir une stratégie intelligente qui n'est pas basée uniquement sur la force militaire. Dans quel contexte le dirigeant américain a-t-il élaboré cette stratégie ? Timothée Donangmaï a posé la question au professeur de sciences politiques Emilio Viano d'American University.
Il y a beaucoup de pression sur Barack Obama parce que l'année prochaine, il y aura les présidentielles et clairement, il est préoccupé d'appuyer le Parti démocrate pour se présenter comme le parti qui peut défendre le pays, peut assurer la sécurité des Américains et du monde, particulièrement après de ce qui s'est passé à Benghazi et dans d'autres occasions que les républicains peuvent exploiter pour, comme ils font toujours, se présenter comme le meilleur parti pour la sécurité du pays. Le président, il a beaucoup à faire parce que on ne veut pas perdre l'importance de l'influence américaine quand il y a l'ascendance de la Chine et d'autres pays qui veulent aussi s'affirmer sur le cadre international.
Quelle est l'importance dans cette nouvelle stratégie de retrait américain d'Irak et d'Afghanistan?
C'est naturellement important. C'est bien le temps aussi de se retirer, particulièrement de l'Afghanistan. Et maintenant, on a, d'un certain point de vue, essayé de faire le mieux qu'on pouvait faire pour assurer la stabilité, la continuité, la sécurité de l'Afghanistan, de l'Irak, du Moyen-Orient. On voit maintenant que ça n'a pas fonctionné, particulièrement dans le sens de l'Irak. L'Afghanistan, dans ce moment un peu plus tranquille, ou peut-être oublié par les moyens de communication, les médias, et on ne parle pas beaucoup de ça. Et ce qui se passe, il souligne la difficulté d'une intervention étrangère dans une région où il y a toute une tradition, une mentalité, aussi une religion, des coutumes très très différentes, où il n'y a jamais eu vraiment une démocratie, et est très difficile d'imposer, d'apporter un système politique plus occidental. Et on peut le voir maintenant, particulièrement en Irak. On doit aussi souligner qu'il y a des contradictions, il y a des difficultés même avec ce qu'on appelle les alliés des États-Unis, par exemple l'Arabie Saoudite.
Justement, par rapport à cette situation, on a le problème du groupe l'État islamique pour lequel les États-Unis ont formé une coalition, mais il y a encore des difficultés à traiter ce dossier.
Dans mon point de vue, naturellement, c'est même le rôle que certains de ces pays qui se disent maintenant alliés des États-Unis ont joué dans le passé dans l'expansion de l'État islamique. L'Arabie Saoudite a financé l'État islamique au commencement.
Le professeur de sciences politiques Emilio Viano d'American University.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes, soca, zouk, reggae, salsa et vos commentaires sur notre page Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-85-40. Participez en direct, ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Maïga Sanata Diara à Amdalaï, Bamako. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Nigeria lutte contre Boko Haram. 5 pays se joignent pour former une force régionale de 7500 soldats afin de faire face au groupe terroriste.
Un des leaders du groupe islamiste Al-Shabaab tué dans une frappe américaine selon le gouvernement somalien.
C'est la journée mondiale de tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines.
États-Unis, Barack Obama prône une stratégie intelligente en matière de sécurité et de la patience dans la recherche de solutions aux problèmes internationaux.
Et au Yémen, la puissante milice chiite et contrôle désormais toutes les avenues du pouvoir. Elle a nommé un conseil qui doit remplacer le Parlement yéménite.
La mise en onde de cette édition a été assurée par Michel Joseph,
accompagné de Santos et Rachad à la console technique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Ouagadougou sur 102.4 FM. À Douala, Radio Balafon. Raga FM, Kisangani. À Zinde, Niger, en Fani FM. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.